Voilà, bonjour. Il y a une image qui apparaît à l'écran. Se laisser surprendre. J'ai juste eu un petit peu des angoisses cette nuit en repensant à cette image. Je me suis dit, purée, est-ce que c'était l'intelligence artificielle? Mais elle date de 2010. Donc je pense qu'on échappe encore à ces trafics un petit peu. Se laisser surprendre. Le prophète Ésaïe dit qu'un jour, le loup et l'agneau vont paître ensemble. Des choses extraordinaires qui peuvent se passer avec le Seigneur. J'aimerais qu'on se laisse surprendre ce matin. Déjà, merci pour ce temps de méditation. Je trouvais que c'est pas souvent qu'on vit quelque chose comme ça dans nos églises aujourd'hui. Et j'aime me laisser surprendre par le Seigneur. C'est magnifique. Et j'aime me laisser surprendre par le Seigneur. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Alors j'aimerais vous raconter une de ces surprises de cette année. Voilà, il y a quelques semaines, je vais jouer à la pétanque à Montrichet. Je fais partie d'un club là-bas. Et puis les heures qui précèdent ce déplacement, j'ai une image qui vient de mon esprit. C'est le visage d'une dame qui joue à la pétanque. Et puis, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue. Mais cette image revient. Au point que j'ai l'impression que le Seigneur veut me parler à travers cette dame. Mais alors, sans plus, je ne suis pas spécialement mystique. Et quand j'arrive au club de pétanque, cette dame est là. Et surprise, dès qu'elle m'aperçoit avec son compagnon, elle se précipite vers moi. Je dis « Waouh !» Bon. Elle me dit « Guy, toi qui es pasteur, j'ai jamais dit à cette femme que j'étais pasteur. J'ai eu très peu de contact avec elle. Toi qui es pasteur, est-ce que tu serais d'accord de nous venir en aide ?» Là, alors, et elle me raconte qu'ils ont un couple de voisins dont le fils va se marier et il aimerait une bénédiction de mariage. Mais il n'appartient à aucune église avec sa future épouse. Et ils ont fait des démarches auprès d'un prêtre, aussi auprès d'un pasteur, semble-t-il, qui n'a pas accepté de bénir leur union. Est-ce que tu serais d'accord d'intervenir. Je dis, écoute, moi, ça fait 10 ans que je suis à la retraite, j'ai fait des mariages de ma vie, mais écoute, je ne peux pas te dire ni oui ni non, je suis vaudois, mais je veux bien aller les rencontrer, parce qu'on va trouver une solution, j'ai des amis pasteurs, et comme ça, on va trouver un chemin. Et je suis allé voir ce couple, et ce couple m'a beaucoup touché. Pas d'engagement avec Dieu. C'était un signe pour moi de demander au Seigneur, mais je vais prouver un petit peu leur demande. Pourquoi est-ce qu'ils demandent une bénédiction de mariage? Alors, ils m'ont expliqué un petit peu leur parcours. J'ai l'impression qu'ils sont dans un temps de recherche de Dieu. Alors, finalement, j'ai accepté de vivre ce temps de bénédiction de mariage. Mais dans cette soirée de préparation, ce qui est vu très fort dans mon esprit, c'est ce que je vais vous partager ce matin. C'est le texte des noces de Cana, où Jésus a vécu le premier miracle de l'évangile de Jean. C'est aux noces de Cana, Jésus est avec une famille. Et c'est ce qui est venu sur mon esprit. Alors voilà, c'était tout simple, on s'est retrouvés. Bon, ils avaient loué une salle à Donge où il y a à la fois une salle pour les fêtes, quelle qu'elle soit, et puis à l'étage, il y a le temple réformé. Alors, ils avaient demandé à la paroisse si c'était possible d'utiliser la salle de culte un moment. Alors, ça n'a pas été une cérémonie de mariage habituelle où il y a la louange, où on lit les textes, il y a les promesses de bénédiction, etc. J'ai adapté. Mais ce texte des Noces de Cana, ça faisait des années que je ne m'étais pas arrêté dessus. Et j'étais tellement béni, je crois que j'étais plus béni que ce couple, finalement. Et puis, j'ai dit, si une fois j'ai une occasion de partager cela, ben je le ferai. Et je le fais avec d'autant plus de joie que c'est un couple qui habite à Cossonay. Voilà, vous avez beaucoup prié pour le service Pâques, pour la région. Ben, je crois que le Seigneur a répondu en partie à vos prières par ce genre de démarche. Ça va comme ça? Alors, j'aimerais vous surprendre ce matin. J'aimerais que vous vous mettiez tout à l'heure debout, que vous formiez des groupes, si possible, de 3 personnes, et que sans la Bible, c'est ce que j'ai fait avec ce couple, je n'ai pas commencé dans ma rencontre, alors j'ai dit, oh, on va ouvrir la Bible, je vais vous lire un récit de la Bible. Je leur ai raconté les noces de Cana. Et puis ils étaient surpris de voir Jésus comme ça. Alors j'imagine que tout le monde parmi vous connaît ce récit, puis ce serait super qu'il y en ait qui ne le connaissent absolument pas. Mais vous allez essayer de vous mettre par groupe de 3, debout, vous faites des petits groupes rapidement, je vous donnerai 5 minutes, et vous n'ouvrez pas la Bible. Mais vous essayez de raconter un petit peu, hein, l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous peut essayer de raconter à ses voisins voilà ce récit, puis peut-être d'autres peuvent, ah, mais là c'était bien, mais là tu as oublié un truc. Ah oui, puis ça, etc. Mais vous n'ouvrez pas la Bible, d'accord? Je vous donne 5 minutes, vous mettez debout, vous répartissez, vous mélangez un petit peu par groupe de 3, puis il y en a peut-être qui n'ont pas lu ce texte, qui ne connaissent pas l'histoire, mais ok? Voilà. Allez, je vous donne 5 minutes. Voilà, c'était réjouissant de vous voir comme ça, ça y allait, hein. Ce serait intéressant de comparer tous vos récits. Alors, on va le faire, mais en découvrant le texte de l'Évangile de Jean. Et puis vous apercevrez vous-même, vous pouvez vous auto-évaluer en disant « Ah, mais c'est super, on a dit tout juste !» Ou bien « Ouh là là, on a raté ça, c'est incroyable !» Mais il n'y aura pas de contrôle. Alors, il faut que j'allume la maniclette, et c'est bon. Vous l'avez fait, une image qui aurait pu être une bonne inspiration. Mais on découvre déjà une première partie du texte et j'en dirai quelques éléments. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. Troisième jour, on ne sait pas exactement, c'est peut-être à partir de l'instant où Jésus a quitté la Judée, lieu du baptême, pour aller, après la rencontre avec Jean-Baptiste, en Galilée, ou si c'est parce que c'était 3 jours avant qu'il a rencontré un certain Nathanaël, un des premiers disciples qui habitait à Cana. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme ou mère ?» C'est une expression de respect, en réalité. « Mon heure n'est pas encore venue, ou ce n'est pas encore le moment pour moi. » Mais quel moment, hein ? Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 100 litres. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Voilà, c'est touchant, c'était formidable pour moi avec ce couple, leur dire, mais rendez compte, Jésus-Christ et celui qui a aimé être avec les gens, a aimé les gens. Il est ce Fils de Dieu qui a du plaisir à venir partager nos joies lors d'une fête de mariage. « Et nous avons un Dieu qui s'intéresse à nous, pas seulement dans les difficultés, mais aussi dans la vie quotidienne. Pas seulement le dimanche matin, lorsque nous allons dans une église, mais à tout instant de la vie, à chaque étape de la vie. Et c'est vrai que c'est d'autant plus touchant que, justement, cette histoire, ce premier miracle, selon Jean, dans l'Évangile, a lieu à Cana. C'est tout près de Nazareth. Et Cana, c'est un petit village, insignifiant, comme la Galilée aux yeux des Juifs de l'époque. Et c'est d'autant plus touchant, justement, que Jésus va faire ce déplacement dans ce contexte. Et ce premier signe qui est très terre-à-terre en lien avec la nature, il y a dans les 35 récits de miracles dans les évangiles, il y en a plusieurs qui ont un lien avec les miracles sur la nature. Et sur les 7 miracles qui sont décrits dans l'évangile de Jean, il y en a 3 qui concernent la nature. C'est dire que Christ n'est pas insensible à ce que nous vivons, aussi à des besoins. Et lorsqu'il y a des défis particuliers, eh bien, il est prêt à intervenir. Et ça, c'est plutôt rassurant. Il faut savoir que les mariages en ce temps-là, ça dure 7 jours. Puis il y a un certain nombre d'invités. Et la loi de l'hospitalité fait que pour une telle circonstance, si on vient à manquer de vin, ben, c'est un déshonneur, c'est une honte pour la famille qui accueille cette circonstance. Et Marie, qui est probablement une amie de cette famille, fait ce constat, et tout d'un coup, panique à bord, ils n'ont plus de vin, et elle se tourne vers Jésus pour lui faire cette remarque, elle lui expose la situation. Comme nous pouvons aussi, nous-mêmes, partager des défis particuliers que nous avons avec Jésus. Je crois qu'il est prêt à intervenir. Et si vous êtes confronté actuellement à un gros défi en particulier, c'est rassurant de savoir qu'il est ce Dieu qui est proche de nous. Le petit problème avec Marie, on lit entre les lignes à ce moment-là, un peu quand même, c'est qu'elle a envie, à quelque part, de lui dire ce qu'il doit faire. C'est vrai qu'elle est en tension parce qu'elle est en connaissance de tellement de choses, déjà par rapport à toutes les circonstances de la naissance de Jésus, par rapport à tout le vécu par la suite aussi, et puis par rapport au premier disciple que Jésus a appelé. Là, apparemment, ils sont 5 disciples avec Jésus, qui lui ont certainement raconté ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste et avec Nathanaël. Alors, elle sait qu'il est un être très particulier sur la terre, ce Messie annoncé. Alors, elle aimerait le bousculer un petit peu. Comme nous aussi, des fois, dans des moments très difficiles, des défis de prière particuliers, eh bien, on aimerait qu'il bouge un petit peu plus vite et qu'il intervienne immédiatement. Que me veux-tu, femme ? Encore une fois, c'est une expression de respect. Sur la croix, Jésus aussi dira à Marie : femme, voilà ton fils. Et à son disciple Jean : voilà ta mère. Mais ensuite, qu'y a-t-il entre toi et moi ? À quelque part, on entend, mais mêle-toi de tes affaires, maman. J'ai 30 ans maintenant. Ce n'est pas à elle de décider ce qu'il doit faire. D'autant plus que Jésus est prêt à manifester des signes de sa messianité, mais il sait aussi que dès l'instant où il va les manifester, il va y avoir une tension qui va commencer avec les chefs religieux. Et à un moment donné, il y aura l'heure de la croix, le moment le plus central de l'évangile avec la résurrection. Donc, il a besoin d'être dépendant totalement du Père. Et ça doit rappeler un certain récit à Marie d'un épisode vécu à Jérusalem à l'âge de 12 ans, où ils ne savaient plus où était leur fils. Et puis quand ils l'ont retrouvé dans le temple avec les chefs religieux, Jésus leur a dit, « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Et c'est beau de voir que Marie manifeste à ce moment-là cette confiance de dire au serviteur, « Mais faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. » Et Jésus va ordonner de remplir ces grandes jarres d'environ 100 litres chacune, 6 jarres qui servent aux ablutions. Les Juifs se lavaient les mains avant les repas et après les repas. Et ses serviteurs vont obéir. On va découvrir la suite du récit. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin, j'ai envie de dire ce nectar, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le mari et lui dit, « Mais tout homme sert d'abord le bon vin, mais puis le moins bon après qu'on se soit enivré, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Très étonné. Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Puisez maintenant. Amenez-en à l'organisateur du repas. Il goûte cela. Il est étonné de goûter ce si bon vin. Et cet ordonnateur du repas va vers le mari, le marié, il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe hein, d'habitude quand les gens débutent des noces, ont toutes leurs facultés au niveau des papilles gustatives pour goûter un bon vin, c'est là qu'on sert le meilleur. Et puis, mais là, tu fais exactement le contraire. Il est bousculé. Et tel est à Cana, fut à Cana, ce premier signe miraculeux. Et Jean utilise toujours cette expression pour ces 7 miracles qui sont décrits dans son évangile de signes miraculeux. C'est un signe. Jésus n'est pas un magicien. Hérode aurait bien aimé à un moment donné, juste avant la crucifixion. Il a fait venir Jésus exprès vers lui. « Fais des miracles !» C'est un signe. C'est-à-dire que le miracle accompli n'est pas une fin en soi. Il nous amène à réfléchir. Et tous les miracles de l'évangile de Jean vont dans ce sens. C'est dire, mais pourquoi il y a eu cette action surnaturelle? Quel en est l'objectif? Quelle est l'idée là derrière? Et c'est peut-être la chose qui m'a le plus bouleversé quand j'ai partagé ce texte dans la circonstance que je vous ai partagée tout à l'heure. Il y a eu quelque chose qui s'est passé là. On ne sait pas finalement, au niveau de l'ordonnateur du repas, de l'époux, des convives, dans quelle mesure ils ont été informés par la suite. Toujours est-il, dans le moment présent, il n'y a que les serviteurs et les disciples et Marie qui, eux, savent ce qui s'est passé. Et il est dit, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Moi, j'avais la conviction profonde que Jésus a fait ce miracle à quelque part. Oui, il y avait une bonté exprimée vis-à-vis de ce couple en difficulté, mais en premier lieu, il savait que ses disciples avaient besoin de pouvoir vivre cette bénédiction, de pouvoir mieux réaliser qui était Jésus, sa gloire. La présence de Dieu fait homme qui était là avec eux et qui allait les mandater pour être des témoins de son amour auprès du peuple juif et au-delà. Et cette transformation de l'eau en vin nous fait miroiter aussi à la fois la qualité et la quantité de manifestation de l'amour de Dieu dans nos vies. Et tout à l'heure, Christ le disait, quand j'ai eu sur ma route, à un moment donné, j'étais dans un bureau à Lausanne, on était 35 employés, et un jour, à la cafétéria, on se retrouve, nous étions 4-5, très peu, ça arrivait quasiment jamais, puis il y en a deux qui partent, trois, et je me retrouve tout seul avec cette jeune femme australienne avec laquelle j'avais très très peu de contact, je ne la connaissais pas vraiment. Et on n'est plus que les deux, elle me pose cette question, « Hey, qu'est-ce que tu as pensé de Roger ?» Roger, c'était un jeune de mon âge, j'avais 25 ans, qui était venu travailler 3 mois dans ce bureau et qui disait à qui voulait l'entendre, mais surtout pas moi, qu'il avait rencontré Jésus. Il avait rencontré Jésus. Et moi, je me disais vivement qu'il s'en aille, ce gars, il est allé en Afrique, le soleil lui est tapé sur la tête. Et puis, cette femme m'a surprise, elle m'a déconcerté, en me demandant, mais qu'est-ce que tu penses de Roger? Et je lui ai dit, honnêtement, écoute, moi, je pense qu'il a des problèmes, ce garçon. Et par politesse, par condescendance, j'ai quand même dû lui dire, toi, qu'est-ce que tu en penses? Et qu'elle m'a dit, moi, je pense qu'il a trouvé ce que je cherche depuis des années. Je me suis dit, mais où est-ce que je suis tombé? Et puis, alors, elle m'a bien eu. Elle m'a dit, mais est-ce que tu sais qui nous a donné la vie? Pourquoi est-ce que nous sommes sur cette terre? Et un jour, nous allons mourir. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Ouf, je ne me sentais pas bien, là. Et c'était le début d'une interpellation de la part du Seigneur. Et quand je regarde en arrière, ça fait 50 ans qu'a eu lieu cette rencontre pour moi. Et quand je revisite un petit peu la fidélité de Dieu, sa bonté exprimée de tant de manières, avec tant de richesses, avec tant de diversité d'actions du Saint-Esprit tout au long de mon existence, je vous garantis, j'ai fait ce travail cette année de regarder dans le rétroviseur. Et quand je réalisais ce que Dieu avait mis en place pour me rencontrer à un moment donné, je disais, c'est pas possible, Seigneur. J'ai commencé à pleurer. Notamment parce que je me disais, mais si cette rencontre n'avait pas eu lieu, que serais-je devenu? Qu'est-ce que je serais aujourd'hui? Et alors, je crois que le Seigneur a manifesté là à Cana des choses magnifiques au niveau de sa bonté, de sa générosité. Et c'était fondamental pour tisser des relations avec ses disciples, des relations de confiance. Parce qu'il savait qu'il serait confronté à des moments très difficiles par la suite. Mais Jésus a toujours été fidèle, malgré le fait que parfois certains ont vacillé, à commencer par Pierre, qu'il a renié même dans des moments très très sensibles de la vie de Jésus juste avant sa crucifixion. Alors, tout cela me fait dire ben, merci Jésus. Et j'aimerais vous interpeller, nous interpeller ce matin, justement par rapport à notre rencontre avec lui. Est-ce que nous avons vraiment réalisé qui est Jésus, son amour pour nous? Est-ce qu'on a envie d'avoir une relation avec lui, une communion avec lui? Peut-être parmi nous, il y en a certains qui se posent ce genre de questions, n'ont pas pu prendre de décision. Et puis pour d'autres, ils sont peut-être dans une phase de traversée de désert spirituel, peut-être des doutes par rapport à l'amour de Dieu, parce qu'il y a eu des choses difficiles, déconcertantes, dans un mauvais sens du terme. Peut-être que dans ce moment de Sainte-Cène qu'on va prendre maintenant, c'est l'occasion de comme renouveler son alliance, notre alliance avec Jésus, pour lui dire, mais Seigneur, tu m'as un peu déçu, là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'accepte de te faire confiance. Ça pourrait être quelque chose de magnifique, ou simplement entrer dans une relation d'amour avec Jésus. Alors on va continuer par la Sainte-Cène, et on n'est pas au bout de nos surprises. Vous verrez pourquoi, et je vais laisser la place à Christ qui va prendre le relais.